Vladimir Poutine rencontre deux émissaires américains envoyés à Moscou par Donald Trump. Les deux hommes ont présenté au président russe la nouvelle proposition de paix pour l'Ukraine portée par le président américain. La rentrée politique se poursuit en métropole. Éric Ciotti, le président de l'UDR, a fait la sienne dans les Alpes-Maritimes. Il propose au Rassemblement national un pacte d'alliance pour la présidentielle. Fin des travaux pour les membres de la mission transpartisane. Les membres de la mission ont été reçus à l'Élysée par le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est dit déterminé à trouver des repreneurs pour les usines de nickel. Une journée pour célébrer et transmettre et rassembler. La ville de Païta a organisé hier sa fête de la musique. Trois scènes musicales étaient installées autour de l'arène du Sud. Le public est venu en nombre. Le sport, la Formule 1, Pierre Gasly sur Alpine s'élancera ce soir en pole position du Grand Prix d'Italie. Il a réalisé le meilleur temps des qualifs à Monza devant le Britannique George Russell. Le coup d'envoi de la saison du top 14, le championnat de France élite de rugby. 6 matchs au programme ce matin, dont un choc contre l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Et puis en Calédonie, le grand événement du jour, ce sera bien sûr le marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie. Plus d'un millier de coureurs réunis le long des becs à Nouméa. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal à la une ce matin, l'actualité internationale et les deux émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui ont donc été reçus il y a quelques heures par le président russe Vladimir Poutine à Moscou. Les deux envoyés spéciaux de Donald Trump avaient pour mission de tenter de convaincre Vladimir Poutine de reprendre les négociations de paix avec l'Ukraine. Pour la Maison-Blanche, ce week-end pourrait changer la donne et favoriser un retour à une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre. Les deux hommes ont présenté au président russe la nouvelle proposition de paix portée par Donald Trump. Wilfried De Villers pour Europe 1.
Même si à ce stade, rien n'a fuité sur le contenu de cette proposition qui vient d'être donc transmise à Vladimir Poutine, le président américain n'a pas précisé s'il implique ce plan une cession de territoire de la part de l'Ukraine, ligne rouge de Kiev depuis le début du conflit. C'est l'un des sujets les plus sensibles des négociations entre Russes et Ukrainiens qui sont aujourd'hui à l'arrêt. La visite de Steve Witkoff et de Jared Kushner pourrait peut-être changer les choses. À Moscou d'abord, où ils poursuivent ce soir leur discussion avec Vladimir Poutine, 10 jours après la visite du patron de la CIA à Moscou, mais surtout à Kiev, où les émissaires de la Maison-Blanche doivent arriver demain. C'est leur première visite dans la capitale ukrainienne et c'est là où la tâche s'annonce probablement la plus ardue. Les deux envoyés de Donald Trump devraient tenter de convaincre Volodymyr Zelensky de faire des compromis, notamment, nous l'évoquions sur cette question, des territoires ukrainiens convoités par la Russie, Donbass en tête. Sans avancée claire sur ce dossier, la visite américaine risque de s'en tenir au symbole et surtout de confirmer l'impasse diplomatique pour sortir d'une guerre qui dure depuis 4 ans et demi. Moscou et Kiev se sont simplement entendus aujourd'hui pour une trêve de 3 jours. Et encore, elle ne concerne que les deux capitales.
Wilfried De Villers du service international d'Europe 1. À l'international toujours, l'armée américaine qui dit avoir frappé 3 pétroliers iraniens. 2 de ces pétroliers ont été neutralisés de manière permanente. Le 3e a été totalement détruit. L'armée américaine aurait frappé ses navires après que 2 bâtiments de la marine américaine aient été pris pour cible par des missiles tirés par les gardiens de la Révolution. Cette guerre au Moyen-Orient qui impacte les portefeuilles, l'essence est au plus haut niveau depuis 4 ans en métropole. Et ce n'est pas tout, les prix de nombreux produits s'envolent. L'indice FAO pour l'agriculture et l'alimentation de l'ONU a augmenté de 1,9% au mois d'août. En cause, les fortes températures depuis plusieurs semaines, mais aussi les tensions géopolitiques. Une augmentation des prix de certains produits qui pourraient nuire aux consommateurs. Marie-Yves Douard pour Europe 1.
15% d'augmentation pour le cours du blé, 12% pour celui du sucre et des produits laitiers également touchés avec le prix du lait qui a bondi de 3%. Résultat, il pourrait y avoir des conséquences pour le portefeuille des consommateurs si la situation se poursuit, alerte l'expert grande consommation Thomas Graffagnino.
On peut s'attendre à ce que l'indice continue à augmenter dans les mois qui viennent et que les impacts notamment en termes de sécheresse, d'inondation et d'impact sur l'agriculture se confirment. Dans un horizon de 3 à 4 mois, on va vraiment commencer à avoir potentiellement des impacts sur les prix en rayon. C'est sûr qu'on risque d'avoir des prix qui vont être beaucoup plus élevés.
Et les produits concernés vont notamment être ceux à base de sucre et de lait les plus consommés au quotidien.
Ça va être assez large qu'on aille effectivement des produits les plus simples, des pâtes, du sucre en poudre, etc. Mais jusqu'à des produits qui sont plus transformés, mais qui prennent en compte les produits, hein, la baguette, les sucreries, le chocolat. Et...
Presque tous les autres indicateurs de l'huile de palme au riz, en passant par la volaille, ont enregistré une augmentation sur le mois d'août.
Marius Drouard du service économie d'Europe 1. La rentrée politique se poursuit en métropole. La nuit dernière, c'est Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui a fait la sienne à Grandpré de Lévins et dans les Alpes-Maritimes. Il propose à Marine Le Pen un pacte d'alliance pour la présidentielle. Le patron de l'Union des droites pour la République dit avoir fait part d'une quinzaine de propositions à la candidate du RN.
Je soutiendrai avec loyauté, avec détermination, avec engagement la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Oui, la France a besoin de sa victoire. L'UDR, tous ses députés, tous ses élus prendront leur part dans cette alliance. Et aujourd'hui, je voudrais proposer à Marine Le Pen, et j'ai longuement échangé dans ce sens avec elle cette semaine, ce pacte d'alliance pour nous porter vers la victoire, ce pacte d'alliance pour redresser nos territoires, pour redresser notre pays.
Éric Ciotti qui propose notamment un grand Big Bang territorial avec la fusion des départements, des métropoles et des régions au sein de provinces, l'introduction d'une part de capitalisation dans le système de retraite, l'allègement de la fiscalité sur les donations et successions, l'abrogation du regroupement familial ou encore la suppression du droit du sol. À Lille, Jean-Luc Mélenchon a profité de la grande braderie pour tenir un long discours aux airs de meeting. Le candidat de la France Insoumise a redit sa volonté d'annuler la dette française auprès de la Banque Centrale Européenne. Il a promis également la cantine gratuite et bio pour tous les enfants ou encore de bloquer les prix en urgence, les loyers et d'augmenter les salaires. Il s'est aussi exprimé évidemment sur le port du voile.
Je voudrais dire combien je forme le souhait que nous autres, les Français, nous donnions à voir au monde à cet instant autre chose qu'une inepte discussion. Nous, Français, sur le voile que l'on aurait ou non le droit de porter. Nous, les Français, qui avons payé par 2 siècles et demi de guerre de religion entre catholiques et protestants, nous devons affirmer que plus jamais sur le sol de notre patrie, il n'y aura de guerre de religion. Plus jamais! Plus jamais.
Jean-Luc Mélenchon à la braderie de Lille. Et j'ajoute que dans ce contexte, la place Beauvau ne cache pas son inquiétude. Dans une note adressée à l'ensemble des préfets, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle à sécuriser davantage les lieux de culte juifs à l'approche des fêtes religieuses du mois de septembre. L'an dernier, la Direction nationale du renseignement territorial avait recensé 1320 actes antisémites. Il est 7h09 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en Calédonie.
L'événement familial, le Festival international de magie du 11 au 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Des tours de magie incroyables pour petits et grands. Ne manquez pas ce Festival de magie les 11, 12 et 13 septembre au Centre culturel du Mont d'Or. Billets en vente sur ticket.nc.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Jusqu'au 18 septembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour 2 personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors, pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort vendredi 18 septembre à 14h, 371 francs le SMS. N'oubliez pas, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal d'actualité locale avec Lionel Sabot.
Et la fin d'une semaine de travail à Paris pour les membres de la mission transpartisane. Hier, à l'issue de l'entretien d'une heure que leur a accordé le président de la République, Emmanuel Macron, à l'Élysée, c'est Mila Kouloutou-Koumouli, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui, en sa qualité de chef de la mission, a fait le bilan de cette semaine parisienne.
La première victoire, c'est que on a fait quelque chose ensemble, malgré les divergences que sont les nôtres. C'est important de le souligner parce que les Calédoniens attendaient de la part des élus calédoniens qu'ils travaillent ensemble pour relever le pays. Je crois que l'image est assez belle pour le souligner. Le bilan de la délégation transpartisane est extrêmement positif. Il y avait un risque fort pour couvrir et apporter des garanties afin de finir l'année 2026. Ce risque n'existe plus. Deuxième risque, c'est pour l'année 2027. Tant sur le montant que sur la forme, je crois qu'on a eu une belle victoire sur ce sujet. Troisième élément, et qui est fondamental, c'est ce fameux contrat de responsabilité pluriannuel financier qui doit être travaillé entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la République. On devra le bâtir avant la fin de cette année. C'est un contrat de responsabilité où il y a les engagements de notre territoire, les engagements en contrepartie du gouvernement de la République en soutien financier, mais surtout, c'est ça qui est important, c'est le contrat de désendettement.
Et lors de l'entretien avec le président de la République, il a été question évidemment de l'industrie du nickel. Emmanuel Macron a annoncé qu'il était déterminé à trouver des repreneurs pour les trois usines. Concernant justement ce dossier nickel, le député Nicolas Metzdorf partage les choix du président qui est hostile à un repreneur chinois, mais il regrette aussi que la France se soit désengagée de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la question du nickel, le président de la République a été très clair, il ne veut pas d'investisseurs chinois en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'aujourd'hui, pour nos usines, il y a plusieurs multinationales de différents pays qui se sont positionnés, des groupes indiens, des groupes émiratis et des groupes chinois. Le président de la République considère que les émiratis et les indiens sont nos alliés dans le cadre de la stratégie indo-pacifique et considère que les chinois n'ont rien à faire en Nouvelle-Calédonie puisque c'est eux qui ont mis le secteur du nickel dans cette situation en faisant baisser les cours de manière drastique suite à leurs investissements en Indonésie. Donc c'est une rencontre avec le président de la République qui a été très longue sur la question du nickel. Moi, je lui ai dit que je regrettais, qu'on regrettait tous que la Nouvelle-Calédonie, terre française, terre européenne, n'intéressait pas les investisseurs français et européens sur la question du nickel. C'est-à-dire que nous, on traite qu'avec des puissances étrangères, on ne traite pas avec la France, on ne traite pas avec l'Europe et on ne traite même pas avec le monde occidental. Ni les États-Unis, ni l'Australie, ni la Nouvelle-Zélande, ni le Japon, ni la Corée du Sud. Je suis très content qu'on écarte des investisseurs chinois, mais les Émiratis et les Indiens, moi j'aurais préféré des puissances européennes. Clairement, je suis une députée de la République, je suis un élu français et donc j'aurais voulu que la France reste dans le secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie.
Un propos recueilli à Paris par notre correspondant Xavier Robert. J'ajoute que lors de cette rencontre entre les membres de la mission transpartisane et le président de la République, l'avenir institutionnel a évidemment été évoqué. Il a été acté la nécessité de mettre une pause dans les discussions et de les reprendre après la présidentielle et les législatives de l'an prochain. Sur le territoire, au chapitre des faits divers, en bref, une enquête ouverte à Nouméa après l'incendie de plusieurs véhicules de la société de location Point Rouge dans le quartier de l'Orphelinat. 4 voitures, dont 3 véhicules électriques, ont été la proie des flammes vendredi soir. Les pompiers ont mobilisé 4 engins et 25 soldats du feu pour éteindre les flammes et éviter que le sinistre ne se propage aux bâtiments voisins. Et puis au Mont d'Or, une enquête est aussi ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de caillassage sur la RP1. Les faits sont survenus samedi soir. Il n'y a pas eu de blessés selon les gendarmes. Plusieurs feux de forêt se sont déclarés hier sur les communes de Puébo, Vaux et du Mont d'Or. La direction de la sécurité civile et de la gestion des risques, la DSCGR, a mobilisé des moyens pour renforcer les sapeurs-pompiers communaux et ainsi contribuer à la maîtrise des différents sinistres et à la protection des populations et des habitations menacées, indique le gouvernement dans un communiqué. À Puébo, le feu s'est déclaré à proximité de l'école primaire et il a été éteint à 11h. 2 gendarmes ayant participé aux opérations d'extinction ont été légèrement blessés. À Vaux, 2 habitations ont été un temps menacées par les flammes. Le feu est désormais éteint. Et au Mont d'Or, un feu s'est déclaré hier après-midi entre Saint-Louis et Saint-Michel. En raison de la difficulté d'accès au secteur, le feu a parcouru environ 4 hectares. hectares. Il est actuellement maîtrisé. Et puis cet accident de la circulation qui a fait 5 blessés hier soir dans le secteur de la Tamoa. Une voiture a fait une sortie de route. 2 personnes ont dû être évacuées au Medipol, mais leurs jours ne sont pas en danger. La circulation a dû être restreinte durant près de 2 heures. Le temps évidemment de l'intervention des secours.
RRB, il est 7h15.
La ville de Païta fêtait hier, les habitants célébraient les 30 ans de la fête de la musique. 3 scènes musicales étaient prévues pour l'occasion avec au moins 20 groupes d'artistes, parmi eux quelques personnalités qui ont marqué l'histoire de la musique à Païta. Une histoire qui a débuté en 1996 et qui continue aujourd'hui, nous dit Ticia, chanteuse et membre de l'association Siapouf.
Depuis 1996, le 21 juin, la ville de Païta, la mairie à l'époque, a voulu faire sa première fête de la musique. Et depuis 1996, tous les ans, il y a eu la fête de la musique à Païta, qui a commencé au départ dans le village de Païta. Elle a beaucoup évolué, en fait, cette fête de la musique. Et puis, cette année, grâce à la ville de Païta et à l'État, on a pu l'organiser ici à l'Arène du Sud et offrir aux artistes une scène professionnelle pour les artistes amateurs en voie de professionnalisation ou professionnelle. C'est vraiment une fête de la musique. Il y a beaucoup de vivants. On n'entend pas de musique qui sort d'un appareil à musique ou quoi que ce soit. La musique, c'est fédérateur, c'est rassembleur. On n'oublie pas que la fête de la musique, avant tout, c'est une fête populaire. Et ce que vous voyez là, ce sont les gens de Païta, en fait.
Et cette année, la fête de la musique rendait particulièrement hommage à Marc Richer, ancien directeur du doc socio-culturel de Païta. Comment construire son arbre généalogique? Hier, la ville de Nouméa a organisé une conférence avec Jean-Pierre Palladini, un généalogiste amateur mais chevronné. Pendant 2 heures, il a expliqué les méthodes de recherche, le fonctionnement des archives, car aujourd'hui, de plus en plus de personnes cherchent à connaître leurs ancêtres, mais ne savent pas comment faire.
Je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Vous voyez, là, aujourd'hui, on était 25. La dernière fois, on était à peu près pareil. Beaucoup, ce sont des gens qui travaillent ou qui sont retraités. Après, il y a la méthode de travail. Moi, j'ai beaucoup de contacts. Il faut avoir l'instinct du chasseur, hein. Je l'ai dit dans ma présentation, parce que c'est pas toujours aussi évident que ça. Il y a beaucoup d'informations que vous ne trouverez pas dans les actes d'état civil, que vous trouverez en discutant avec les gens qui vous permettront de faire le lien entre 2 événements, entre 2 personnes, ou en apprenant à lire un acte, le parrain par exemple, ou l'officier d'état civil qui se trouve être le père de la personne. Enfin voilà, des tas de trucs dans le genre, quoi.
À propos recueilli par Charlotte Coulson, la rencontre était organisée dans les archives municipales rue de la République. Un beau succès pour la fête du Diaot qui a animé la commune de Wegua hier. De nombreux visiteurs avaient fait le déplacement pour un rendez-vous qui avait dû être reporté en raison des mauvaises conditions météorologiques. C'était au mois de juillet dernier. Le rendez-vous a su donc trouver son public, selon Marguerite Martin, secrétaire générale de la mairie de Wegua.
Au plus fort de la fête, on était à 600 personnes. Globalement, on est bien contents, on est satisfaits. On est même surpris parce qu'il y avait d'autres événements qui déroulaient ce week-end aux alentours. Et finalement, on a eu beaucoup de monde. On a eu un super beau temps. Nos exposants sont contents. Tout le monde a bien vendu. Nos animations se sont super bien passées dans une ambiance au top avec beaucoup de joie, beaucoup de convivialité. En fait, ce qu'on retient, c'est que Wegua a apprécié de pouvoir se retrouver et se retrouver avec tout le monde. Quoi, ça fait du bien à tout le monde. En fait.
Mais les animations étaient nombreuses sur place avec une journée qui s'est conclue par des concerts sur le terrain municipal de Wegua. Des animations, il y en aura encore aujourd'hui. Les Petites Sœurs des Pauvres organisent un mini-marché à Ma Maison. C'est bien évidemment au Faubourg Blanchot. Brocante, musique, danse et tombola au programme de 10h à 16h. Et puis le traditionnel vide-grenier du centre-ville revient ce dimanche sur la place des Cocotiers. Il a débuté il y a quelques minutes et se poursuit jusqu'à 12h30. Il est 7h et pratiquement 20 minutes sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive. On parlera notamment de la pole position du Français Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie à Monza. Et puis, nous parlerons également de la météo de votre dimanche. Ça a l'air plutôt bien parti.
Tu fais quoi le 26 septembre?
Pas comme tout le monde, je suis inscrite à la chaîne Pacifique Méga Rando, le plus gros événement VTT du territoire.
Ah oui, mince, j'avais oublié.
En plus, pas d'excuses, chacun trouve un parcours à son niveau, entre amis, en famille, en rando ou en chrono, c'est ça la chaîne Pacifique Méga Rando.
Et pour les enfants?
T'inquiète, c'est prévu. Toutes les informations et les inscriptions sont sur www.megarando.nc, alors on fonce!
Gagnez 100 000 francs de bons d'achat à dépenser comme vous voulez, où vous voulez. Envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, 100 000 francs sont à gagner. Et chaque SMS est pris en compte pour le tirage au sort du million. Envoyez RRB au 4020. Bonne chance. 371 francs par SMS. Règlement à l'accueil de la radio.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et à la une de l'actualité sportive, la Formule 1 et la 13e manche du championnat du monde, c'est le Grand Prix d'Italie ce week-end.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et les qualifications la nuit dernière ont laissé place à une surprise à Monza. Le français Pierre Gasly a signé la pole position, Michael Juneski.
Un coup de maître du tricolore sur Alpine qui a devancé les favoris et qui s'élancera donc en tête sur la grille de départ ce soir. Pierre Gasly a détrôné la Mercedes de George Russell à la dernière seconde de ses qualifications pour 60 millièmes seulement. Et pour signer sa première pole position en carrière sur le circuit où il a déjà décroché sa seule victoire en championnat du monde, c'était il y a 6 ans. Pierre Gasly.
Quand j'ai vu mon nom premier sur l'écran, c'était magique. Beaucoup d'émotions, énormément de satisfaction. Ça fait 9 ans que je me bagarre tous les week-ends pour essayer de donner le meilleur. Je suis trop content d'avoir pu saisir cette chance.
Et c'est la première pole position pour un pilote français depuis Jean Alési en 1997 et déjà à Monza à l'époque. Pierre Gasly qui s'élancera donc aux côtés de George Russell sur la première ligne de la grille de départ, juste derrière. On retrouvera les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton qui ont profité de la pénalité d'Oscar Piastri, même si le pilote McLaren avait signé la 3e marque, il est relégué en 6e position. Max Verstappen sur Red Bull complète le top 5. À noter que l'autre Alpine de Franco Colapinto, l'Argentin, partira de la 7e place. L'écurie française se plaît sur les terres de la Scuderia. L'autre tricolore, Esteban Ocon, partira lui de la 14e position. Un Grand Prix d'Italie à suivre ce soir, départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, on passe au rugby et c'est parti pour le championnat de France Élite.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le top 14 qui a repris ses droits avec les premiers matchs qui se jouent ce dimanche.
Les premières affiches serrées. Déjà la victoire sur le fil de l'aviron bayonnais face à Toulon. Bayonne qui l'emporte 27 à 26. La section paloise, elle, commence bien l'année avec un succès à l'extérieur sur le terrain de Montpellier. Le vice-champion de France, 27 à 19. Le Stade français a battu Perpignan de peu, 28 à 26. Succès encore de Lyon sur Clermont, 40 à 36. Castres l'a emporté sur les valeureux bretons de Vannes de retour dans l'élite, 29 à 20. Encore un match en cours ce matin, l'Union Bordeaux-Bègles qui affronte le Racing 92. On a eu droit à une première mi-temps à sens unique. L'UBB mène à la pause 38 à 0. La dernière affiche demain mettra aux prises le Stade Rochelais au Stade Toulousain, grand favori cette saison.
Du rugby encore avec les Springboks qui s'imposent pour le 3e test match d'été contre les All Blacks, 29 à 24. Sur la pelouse de Johannesburg, les Sud-Africains qui ont pris l'avantage d'un 2-1 dans cette série de rencontres avant le dernier acte qui se disputera aux États-Unis le week-end prochain. Ce sera à Baltimore. Le football à présent, Mickaël, avec la 3e journée de Ligue 1 et Lens qui subit une 2e défaite depuis le début du championnat.
Et les Lensois vice-champions de France, récemment titrés dans le trophée des champions, qui s'inclinent à domicile face à Lorient sur le score de 1-0. Encore des matchs en cours et Brest qui a pris l'avantage sur la pelouse du Havre 2-0 après 70 minutes de jeu. Nice et Le Mans s'accrochent. Le promu Le Mans avait ouvert le score sur le terrain de l'OGC Nice avant de voir les Niçois égaliser avant la pause. Le score est de 1-0 après 70 minutes de jeu.
Le tennis, l'US Open et deux Français qui vont tenter de passer le 3e tour aujourd'hui.
Benjamin Bonzi tout d'abord qui a fort à faire face au Russe Karen Khachanov, 50e à l'ATP, entrée en matière compliquée puisque Benjamin Bonzi est déjà mené 1-7-0, 6-4 dans la première manche. Dans la foulée, le jeune Arthur Géa, titré notamment à Nouméa en début d'année, va tenter de se hisser en deuxième semaine. Il doit pour cela l'emporter contre l'Américain Michael Zheng, adversaire à sa portée puisque Arthur Géa a réussi à grimper à la 87e position au classement mondial après ses bonnes prestations, alors que Michael Zheng est 107e à l'ATP. À noter encore que dans la matinée, l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 1, tentera lui aussi de poursuivre l'aventure face au Chilien Alejandro Tabilio. Chez les dames, la finaliste de 2025, l'Américaine Amanda Anisimova, a déjà été sortie. L'Américaine Coco Gauff, la Polonaise Iga Świątek et la Kazakh Elena Rybakina, deuxième du classement WTA, seront également sur les courses ce matin.
Du cyclisme également, Mickaël, avec le Tour d'Espagne évidemment, et l'Allemand Marco Brenner qui s'est imposé sur la 14e étape.
Il l'a emporté devant le Colombien Santiago Buitrago et l'Espagnol Christian Rodriguez. Les Français Valentin Paré-Maître et Clément Berthet. Donc les deux Français qui étaient dans l'échappée du jour. Ils ont terminé 5e et 6e. Alors au classement général, l'Espagnol Enric Mas reste en tête. L'Autrichien Félix Gall a pris la 2e place au Slovène Primoz Roglic. Il est désormais à 2 minutes 6 secondes du leader avant une 15e étape ce soir qui sera raccourcie en raison des fortes chaleurs qui touchent encore le Tour d'Espagne.
Venons-en à l'actualité sportive en Calédonie. Le grand rendez-vous du jour, c'est évidemment le marathon international, Mickaël.
La 43e édition du marathon mobile de Nouvelle-Calédonie. Près de 1500 personnes au départ sur la course reine, mais aussi le semi-marathon, le 10 km, le challenge Agnès Bernard pour les enfants. Jérôme Troya est le responsable de l'organisation.
Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, plus de 100 bénévoles pour pouvoir tenir cette course-là. Alors nous avons le marathon, le semi-marathon et également la course de 10 km. Donc tout ça doit être balisé dans les normes. En plus, nous sommes labellisés Fédération Française d'Athlétisme. Nos maillots sont pucés et viennent d'Allemagne. C'est quelque chose qui est standardisé, qui est calculé au mètre près, donc très contrôlé. Il y a toutes sortes de concurrents, il y a les vrais compétiteurs et on espère avoir encore les bons compétiteurs. Mais attention, il y a des étrangers. Le parcours est sympa, en bord de mer, sur les baies, c'est très agréable. Et ceux qui veulent le faire plus doucement peuvent le faire plus doucement également.
Les premiers départs ont été donnés à 7h. Je rappelle que des restrictions temporaires de circulation et de stationnement sont bien évidemment mises en place sur la promenade Pierre Vernier et la promenade Roger Larocque. Le temps évidemment de la course.
Et parmi les événements du week-end, on disputait hier l'avant-dernière réunion hippique de la saison. Ça se passait à Boulou-Paris.
Avec l'épreuve phare, la 6e course du jour, le Grand Prix de la Province Nord sur distance 2400 mètres avec plusieurs chevaux qui ont joué les premiers rôles sur les grandes classiques de la saison. Et Storm Dancer, le cheval de Carole Roy, monté par le jockey uruguayen Alvaro Brian Rodriguez, a su s'imposer dans une course à rebondissement. Déjà victorieux de la Clark Warm Up et de la Bouraille Cup cette année, Storm Dancer a devancé The Star, entraîné par Steven Adam de Villiers, et Chrissy Girl de Salah Nasser. Une grande joie pour Carole Roy, le propriétaire de Storm Dancer.
Une grande émotion, une grande joie, bien sûr. Ouais, voilà. Toutes les victoires font plaisir, mais les grandes font encore plus plaisir. Ben, il s'était déjà bien classé l'année dernière, il avait été 3e, mais déclassé pour un nombre de coups de cravache trop important. Et là, cette année, mais il nous fait une course magnifique aujourd'hui. Il nous a sorti le grand jeu. Il a gagné la Bouraille Cup, il a gagné la Warm-Up. Malheureusement, on passe à côté de la coupe là. Il se rattrape et il nous gagne ça de fort belle manière. C'est parce qu'il y a une association, je le dis, je le répète à chaque fois, avec le jockey, une complicité. On dirait deux potes, quoi. Ils s'entendent comme de leur enfant. Il y a beaucoup de ça, oui.
Et dans deux semaines, le Grand Prix du gouvernement marquera la fin de la saison 2026. Une course en semi-nocturne sur l'hippodrome Henri Millard de Nouméa.
Allez, on jette un coup d'œil au reste des événements sport du week-end.
Les championnats de Calédonie de bodybuilding auront lieu cet après-midi. Rendez-vous donné à partir de 16h au Centre culturel du Mont d'Or, du karting Anacutacoin, 3e manche du championnat territorial du cyclisme, 1ère édition du Red Gravencé au parc provincial de la Rivière Bleue. En futsal, la suite de la Super League, la victoire déjà hier du FC Ferrand sur les SNGO 6-0. La SPTT a battu Wedge 4-2. Aujourd'hui, le SNGO retrouvera Zéo Lille Futsal à la salle Omnisport de Lens-Vata.
Merci Mickaël, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sur les murs depuis 1971. Showroom sur les bains à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Pierre.
Ce matin, le temps restera sec et le ciel largement ensoleillé malgré quelques nuages de passage sur les îles Loyauté et le nord-est. Le vent du secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds sur la façade est et au Loyauté et pourra atteindre 15 à 20 nœuds vers la pointe. pointe nord et Bélep. Sur la côte ouest, le vent sera faible en début de matinée avant de s'orienter au sud à sud-est autour de 10 nœuds. Cet après-midi, le temps restera sec et le soleil dominera encore largement. Quelques nuages se développeront toutefois sur le relief et pourront déborder vers la pointe nord, puis localement sur l'ouest en fin de journée. Le vent de sud-est à est-sud-est soufflera généralement entre 10 et 15 nœuds, jusqu'à 20 nœuds sur la pointe nord, et il se renforcera sur le sud-ouest avec localement plus de 20 nœuds et des rafales pouvant atteindre 30 nœuds. Et côté température, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, comptez entre 23 et 26 degrés au meilleur de la journée.
Merci beaucoup Pierre, la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc.